C'est votre Sporama, votre magazine sportif sur VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous. Nous allons donc décortiquer les activités sportives de ce du week-end dernier en Afrique, en Europe. On va aussi parler de boxe. Nous sommes en ligne avec Amine Berouk au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir les amis, bienvenue au Maroc.
Ahmedine Sy, quelque part aux États-Unis. Ahmedine, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Je suis bien à Columbus dans l'Ohio, Eric.
Merci beaucoup de préciser. Élisée Ongpatine, vous êtes là, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric. Depuis le Bénin, je suis Élisée Ongpatine et bienvenue à tous.
Merci à vous tous d'être là. Nous attendons Jules Valentin Ngwe qui doit nous rejoindre dans un instant. Alors, Élisée, je vais commencer avec vous. Le week-end en Afrique, il y a eu beaucoup de rencontres. C'était très mouvementé.
Bien évidemment, avec le premier tour préliminaire aller des interclubs de la CAF, la Ligue des Champions, et bien évidemment la Coupe de la Confédération. Et c'est quand même un bon premier match hein, pour les deux représentants béninois, puisque les deux clubs étaient tous en déplacement. Le champion en titre, Coton FC de Ouidah, qui était du côté de Bamako pour affronter les Burkinabés de l'AS Douanes, puisque le club burkinabé n'a pas son stade à jour. Voilà, donc le match a été délocalisé tout simplement du côté de Bamako, où les deux sélections, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge 0-0. Idem pour le second représentant béninois, puisque Dadier FC d'Aplaroué a fini deuxième du championnat passé et donc qualifié pour la Coupe de la CAF. Eh bien, les Dadier Boys étaient en déplacement du côté du Nigeria où ils affrontaient Warriors El Kanemi. Eh bien, un but partout. Les Béninois ont eu le privilège de marquer en premier et se sont fait rejoindre en toute fin de match par les Nigériens. Le match retour, c'est dans une semaine, le samedi prochain du côté de Cotonou. Donc, ça va être un match, deux matchs quand même très spectaculaire, puisque l'équipe championne en titre, eh bien, Coton FC, déjà deux fois a été éliminée au premier tour par les Ivoiriens de la CED d'Abidjan. Donc, il faudra mieux faire pour passer les Burkinabés. Donc, il faudra jouer très bien afin de passer l'étape Burkinabé. Eh bien, l'entraîneur Vitos Vunka en est conscient et il a dit le plus important, ce n'est pas d'encaisser puisqu'il n'était pas de l'expédition malienne. Et vous le savez, en politique, eh bien, les Français ne sont plus autorisés à rentrer sur le sol malien. Donc, l'entraîneur principal, Vitos Vunka, et son adjoint, qui est le préparateur physique, n'étaient pas du voyage. Donc, le match retour promet, puisqu'il sera sur le banc du club béninois et fera passer, et enfin, Coton au second tour, même si le chemin est encore loin. Côté Dadier, c'est encore plus difficile, puisque côté organisation, ça ne se passe pas très bien. Et les joueurs n'ont pas pu bien voyager dans de bonnes conditions, mais le plus important, on regarde d'abord le résultat et on espère qu'au match retour, eh bien, la société sportive qui gère, bien sûr, le club d'Aplaroué, il s'agit de la société béninoise de l'eau, eh bien, c'est la SONEP qui gère la GFC d'Aplaroué. On espère que cette société mettra assez de moyens afin de permettre à ses joueurs de bien se préparer et de battre cette équipe nigériane. Donc, on espère vivement que les deux clubs béninois passent au second tour.
Merci Élisée. Amine, vous avez suivi toutes ces rencontres sur le plan technique, sportif. Quelle est votre analyse par rapport aux différentes performances exprimées ce week-end?
Tout d'abord, le timing de la compétition qui ne sied guère à la performance, parce qu'il faut rappeler qu'elle arrive en début de saison, que beaucoup d'équipes n'ont pas encore démarré leur championnat et terminé leur mercato. Du coup, on est un peu dans l'à-peu-près. Et puis, si on doit comparer avec d'autres compétitions continentales, je dirais que la moins sexy, la moins séduisante sont les compétitions africaines, pour une simple et bonne raison. Aujourd'hui, ces compétitions se déroulent souvent l'été, ou dans une période qui est très compliquée. Deuxième chose, ces compétitions ne suivent pas les règlements qui ont été modifiés un peu partout, puisque les buts marqués à l'extérieur ont été supprimés en Europe, en Asie, en Amérique latine, ils continuent à être la règle chez nous en Afrique. Troisième chose, on ne protège pas les clubs les plus huppés, donc on ne commercialise pas comme il faut les compétitions, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui arriver à une compétition continentale avec la règle de clubs maximum par pays, alors qu'en Europe, on en est à 4 ou 5, et dans certains pays qui sont peu huppés ou qui ont peu de résultats, c'est souvent moins d'une demi-place ou une quart de place. Et puis, on ne peut pas ne pas imaginer, je dirais, des pays se qualifier dans la phase de groupe directement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est des compétitions où on est dans des tirages au sort pur et dur. On risque d'avoir, par exemple, comme l'année dernière, le champion de Tunisie contre le champion du Maroc. Cette année, c'est les champions de Libye et le vice-champion de Libye qui affrontent les champions et vice-champions du Soudan. Et à partir de là, tout est possible. On peut se priver de certains cas d'or. Et aujourd'hui, s'il y a de la compétitivité, s'il y a du but, il y a de l'enthousiasme, il est dû au talent des joueurs et au savoir-faire des entraîneurs. Mais aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'organisation des compétitions africaines, il y a encore des progrès à faire. Et c'est justement ce qui pourrait peut-être donner un peu plus d'attrait à ces compétitions continentales, surtout en début de saison. On n'est pas encore à la phase de groupe où les joueurs sont encore démobilisés, où il n'y a pas véritablement un enjeu majeur.
Ahmedine ?
Oui.
Oui. Quand on regarde les différentes rencontres qui se déroulent sur le continent, des stades sont quasiment vides dans certains pays. Qu'est-ce qui fait que il n'y a plus d'engouement chez les différents téléspectateurs ou amateurs du ballon rond? Est-ce que c'est le manque d'argent pour payer les billets?
En fait, Eric, c'est un problème très, 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 très difficile à résoudre, puisque les championnats et les matchs qui se déroulent en Afrique sont un peu concurrencés par les chaînes de télévision. Imaginez que vous êtes chez vous, vous regardez un match, par exemple, ce week-end, il y avait Manchester City qui rencontrait Chelsea. Tu peux être chez toi, allumer ta télévision et regarder ce match en discutant avec des amis, en buvant le thé, comme on le fait généralement en Afrique de l'Est et plus particulièrement au Sénégal.
Ou la bière en Afrique centrale et de l'Est.
Ah, voilà, de la bière en Afrique centrale, du thé en Afrique de l'Est et plus particulièrement au Sénégal. C'est ça, sa concurrence. Et puis, on n'a pas beaucoup de moyens. Si je te donne le cas du Sénégal, pour aller au stade, c'est un peu maintenant loin. Depuis que le stade Demba Diop a été fermé, le stade Léopold Sédar Senghor également est en rénovation. Donc, il faut se déplacer maintenant pour voir un club qui représente le Sénégal. Il faut se déplacer jusqu'à Thiès. Thiès, c'est à 70 km de Dakar pour voir quand même les matchs des clubs africains. Donc, c'est un peu difficile. Mais pour revenir un peu sur ce qui s'est passé au niveau des deux compétitions, c'est tellement intéressant. Moi, j'ai constaté qu'au niveau de la Ligue des champions pour les préliminaires, les matchs ont été un peu serrés. Si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de scores fleuves au niveau de la Ligue des champions, mais au niveau de la Coupe de la CAF, mais on a vraiment vu qu'il y a des clubs, je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Si tu regardes Pyramide de l'Égypte qui a cartonné par 8-0, c'est des scores qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les compétitions africaines. Concernant le Sénégal, comme Élisée a bien parlé des deux clubs béninois, moi aussi, je vais parler des clubs sénégalais, puisque en Ligue des Champions, Tenguet a ramené un bon nul d'Abidjan, puisque le Tenguet FC, qui est champion en titre au Sénégal, était à Abidjan pour rencontrer le Stade d'Abidjan. Tenguet a même failli remporter, puisque ils ont marqué un but à la 75e minute, c'est un but contre son camp, mais malheureusement pour les Sénégalais, les Ivoiriens sont revenus à la hauteur de leurs adversaires dans le temps additionnel sur un but de l'autre Sénégalais qui s'appelle Babacar Gueye. Et concernant la Coupe de la CAF, le Djaraf a réalisé une très bonne opération en allant battre une équipe sénégalaise qui s'appelle East End Line sur le score 2-0. un but marqué par Babacar Diagne. Donc les deux clubs sénégalais vont recevoir au match retour dans une semaine. Et ce sera au stade de la Dior de Thiès, samedi pour Tanguy FC et dimanche pour la Djaraf de Dakar. Eric.
Merci à Amine. L'AS FAR du Maroc a perdu contre Rhino Stars du Nigeria. Comment ça s'est passé? Le Maroc, l'équipe nationale, se portait mieux.
Il y a un décalage entre le football des clubs et le football des équipes nationales. Il faut pas se leurrer. Le football des équipes nationales, l'équipe du Maroc, c'est à 99% de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Le championnat du Maroc n'a pas encore repris. Les clubs sont en pleine période de préparation et de mercato. Déplacement au Nigeria, souvent dans des conditions assez limites, face à des joueurs talentueux. Perdre 2-1 avec la fameuse règle du but à l'extérieur maintient toutes les chances, d'autant plus que le match retour se déroulera au Maroc en nocturne dans des conditions plus favorables. Mais si l'AS FAR fait un peu la grimace parce qu'elle a laissé peut-être passer sa chance face à Rhino Stars, en tout cas pour ce match aller, le Raja lui est allé gagner au Niger dans des conditions beaucoup plus compliquées, sous un soleil de plomb indiamé, dans un terrain qui habituellement n'est pas homologué par la CAF, mais exceptionnellement, c'est à Niamey qu'a eu la rencontre, 2-1. Donc le Raja a pris une option sur la qualification. Et puis, si on devait faire le tour d'horizon des clubs marocains, le troisième Laran Foir, qui était engagé en Coupe de la CAF pour son baptême de feu, l'Union de Touarga, a fait un match à domicile 0-0 contre le Racing d'Abidjan, autre néophyte de la compétition. Et visiblement, tout se déroulera, tout sera décidé au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi à partir de 16h GMT. Donc les clubs marocains, certains sont en ballotage favorable et d'autres sont en ballotage défavorable. C'est le lot des clubs expérimentés de pouvoir tirer leur épingle du jeu et c'est une découverte pour le néophyte de la compétition qui fait ses premiers pas dans les compétitions continentales où il faut un ADN, une expérience, un vécu pour pouvoir se sortir de ce guépier, souvent dans des terrains très compliqués, face à des adversaires talentueux, avec un arbitrage où il n'y a pas la VAR encore, et souvent dans des terrains homologués quand la CAF le désire, et non homologués lorsqu'il y a les compétitions des équipes nationales. Et ce sera le cas, par exemple, pour les terrains du Niger, du Burkina Faso, de la République centrafricaine ou d'autres pays qui n'ont pas droit à ces installations, parce que ce sera le cas dans une quinzaine de jours, ou avec les éliminatoires de la CAN 2025, où beaucoup de sélections disputeront des matchs délocalisés, notamment au Maroc.
Oui, Ahmedine, on parlait tout à l'heure de ces problèmes financiers. Les clubs engagés dans les phases préliminaires des compétitions interclubs recevront une dotation financière de 50 000 dollars américains. C'est la décision de la CAF. Et le vainqueur de la Ligue des Champions, CAF Total Energy, va empocher désormais 4 millions de dollars contre 2 500 000 dollars en 2022. Le vainqueur de la Coupe de la Confédération, CAF Total Energy, va empocher plus de 2 millions de dollars contre 1 200 000 dollars en 2022. Et l'année dernière, les clubs ont bénéficié de l'injection financière de l'AFL, c'est l'African Football League, qui a offert une dotation de 8 millions de dollars. Ahmedine, c'est quand même un montant important. Est-ce que vous pensez que des clubs qui vont, disons, en bénéficier, qui vont gagner ou arriver dans les 8 premiers, parce que il y a d'autres montants qui seront donnés au deuxième, par exemple, 2 millions de dollars, demi-finaliste 1 200 000, quart de finaliste 900 000, troisième de groupe 700 000, quatrième de groupe 700 000. Ça va quand même aider nos clubs.
Tout à fait.
Je pense. Mais ça dépendra de l'utilisation.
Oui, c'est une bonne initiative de la Confédération africaine de football, puisque le football est devenu un business. Donc, mieux il y a de l'argent, mieux les choses se passent normalement. Si vous regardez la plus prestigieuse compétition européenne qui s'appelle la Ligue des Champions, la Ligue européenne des Champions, c'est parce que tout simplement l'UEFA a injecté beaucoup d'argent. Quand tu joues la Ligue européenne des Champions, quand tu gagnes, tu as de l'argent. Quand tu marques un but, tu as de l'argent. Quand tu fais un match, tu as de l'argent. Ça incite les gens à recruter de très bons joueurs et à mettre les moyens qu'il faut pour avoir encore de l'argent. Je pense qu'en Afrique, vraiment, on commence à comprendre. Je te donne l'exemple encore du Sénégal que je maîtrise le mieux. Lorsque la CAF a injecté les 50 000 dollars pour les clubs qui participent, les dirigeants du Giraffe et du Tengue FC qui avaient des problèmes de sous, mais ils ont applaudi avec les deux mains parce que cela les a complètement soulagés. Je pense que maintenant, il faut continuer sur cette lancée pour rendre encore plus attractif ces genres de matchs au niveau du continent africain. Et maintenant, pour la gestion, c'est autre chose.
Élisée, on va parler de la Ligue des champions féminines, CECAFA. Des rencontres du tournoi vont se dérouler très prochainement. Quand vous essayez d'analyser les différentes équipes qui sont en lice, quelle est l'équipe qui a le plus de chances de l'emporter?
Oui, Eric, d'abord, il faut expliquer que c'est pas la même formule que chez les hommes, puisque au moment où on joue des matchs aller-retour avec des préliminaires au niveau des hommes, ça se joue par zone au niveau des dames, puisque l'Afrique est divisée en 5 conférences, comme si on peut s'exprimer ainsi, quand on parle de conférence, c'est la NBA, mais en 5 divisions, pratiquement 5 zones, où il y a la zone ouest, la zone centre, la zone est, la zone nord et la zone sud. Donc, les éliminatoires ont commencé pratiquement depuis la semaine dernière et c'est la zone A de l'UFOA où ça regorge 5 pays, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, la Gambie et autres là qui quand même ont donné le coup d'envoi. Et pour cet exercice, eh bien, c'est le club sénégalais qui se qualifie pour le second tour. La zone B de l'UFOA est à l'étape des demi-finales où pratiquement on aura 2 belles affiches demain mardi où ça concerne quand même les habitués. On peut parler ainsi avec l'Interclub d'Abidjan, c'est bien sûr le club hôte puisque ça se joue actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, donc c'est le club hôte. Les Abidjanaises sont en demi-finale où elles affronteront un grand habitué, c'est bien sûr les Nigérianes d'Edo Queens, et l'autre demi-finale mettra aux prises les Asakas Ladies, puisque elles sont championnes en titre de cette zone A. Eh bien, Asaka Ladies va affronter un novice ou une novice, c'est bien sûr les Béninoises de Ainovi FC, c'est un club de Porto Novo qui un club filial au Dragon de Lomé, le club le plus titré du football béninois, c'est bien sûr les Dragons de Lomé. Eh bien, c'est le club féminin appartenant au Dragon de Lomé. Donc, Ainovi FC, qui a terminé en tête du groupe A, va affronter les Ghanéennes d'Asaka Ladies. Sinon, dans les autres zones, on est toujours à l'étape des matchs de poule. Ça a commencé dans la zone CECAFA, où c'est pratiquement la deuxième journée des matchs de poule. Au niveau de la COSAVA, puisque c'est la zone la plus régulière, la zone qui organise plus de compétitions, que ce soit chez les hommes ou chez les hommes. C'est la zone la plus structurée quand on parle du football des clubs en Afrique. C'est la zone la plus structurée. Donc, c'est pratiquement la troisième journée où ça se dégage. On connaît presque les qualifiés pour les demi-finales. Une chose est sûre, en fin de week-end, au prochain week-end ou bien en fin de semaine, on sera situé sur les qualifiés de ces deux zones-là. Et c'est ça. Donc, on aura 2 demi-finales demain dans la zone B de l'UFOA. Je reprends rapidement où on aura les Abidjanaises d'Inter qui vont affronter, bien sûr, les Nigérians de Edo Queens, et puis la seconde demi-finale mettra aux prises les Béninoises d'Ainovi, aux Nigérians, aux Ghanéennes plutôt d'Asaka Lady.
Amine, on va aborder le tournoi de pré-qualification comptant pour la Coupe du Monde féminine. Et là, c'est au sujet du basketball. Et ce tournoi va se dérouler au Mexique et au Rwanda. Il y a eu des matchs à partir de ce lundi.
Oui, des matchs. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir bien évidemment passer cette qualification, préparer bien évidemment je dirais, passer ce tour-là. Et puis, il faut rappeler que c'est des catégories qui sont jeunes. Donc, ce qui est important, c'est de voir les sélections africaines. Le Rwanda, c'est un pays, bien évidemment, qui a fait un pari sur le basket, qui a signé un long deal avec la FIBA, qui également s'est associé avec la NBA. Et je voudrais parler de ce soft power qui fait aujourd'hui que le Rwanda est un pays qui attire. Il y a un pays qui a décidé de miser sur le sport et en particulier sur le basketball. Ça sert l'image de marque du pays. La marque, je dirais, il y a une trademark rwandaise. Il y a même un encouragement à découvrir le pays, à le visiter et à faire du tourisme. Et ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec la Afro League et ce qui se passe aujourd'hui avec ces éliminatoires n'est qu'un reflet de l'investissement du pays, des infrastructures qui sont de qualité et de l'engouement pour le basketball. Donc le fait d'accueillir cette compétition, quel que soit le résultat sportif, est déjà un acquis pour le continent et notamment pour le Rwanda, qui accueille à bras ouverts via Kigali les meilleurs basketteurs de cette catégorie. La compétition va durer, il y aura bien évidemment un verdict dans les prochains jours et on en saura un peu plus. C'est trop tôt pour juger sur le plan, je dirais, de la performance sportive, mais commençons déjà à savourer la performance sur le plan organisationnel avec, je dirais, des structures qui sont parfaites, des salles qui sont aux normes et un pays qui accueille avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de professionnalisme ce type d'organisation et ce type de compétition.
Ahmedine, vous avez suivi ce boxeur français âgé de 29 ans, c'est Christian Mbili. Il est né au Cameroun. Il est en quête d'une chance mondiale chez les super moyens. Et il a été victorieux au point contre l'Ukrainien Sergi. C'était samedi dans la ville de Québec au Canada. Il dit qu'il veut être champion du monde. Vous l'avez suivi. Quelles sont les chances que vous lui donnez?
Oui, il veut devenir champion du monde parce que il a vraiment dominé son adversaire pour avoir cette belle victoire, car tous les juges lui ont accordé la victoire. Cela montre qu'il a été supérieur. Maintenant, il rêve, comme vous l'avez dit, de devenir champion du monde. Et il se rapproche quand même de ce titre de champion du monde. Maintenant, pour être champion du monde, il faut quand même affronter celui qui détient le titre, celui qui est au sommet, celui qui s'appelle Alvarez. Maintenant, on est en train de voir comment ficeler ce combat. En tout cas, ce sera difficile pour lui, puisque c'est vrai qu'il s'est imposé facilement lors de cette victoire, mais ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'à un certain moment, il a été blessé. Mais cela ne l'a pas empêché de donner des coups qui lui ont valu cette victoire. Maintenant, comme disent les Anglais, wait and see, le titre est si proche, mais si loin aussi, Eric.
Merci, Medine Si. Amine Birouk, on va parler rapidement, en moins d'une minute, de ce qui se passe en Europe. Thierry Henry qui quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Le PSG qui perd Gonzalo Ramos, en tout cas pour au moins 3 mois. Ilkay Gundogan qui annonce sa retraite, de même que le gardien suisse Yann Sommer.
Amine. Ilkay Gundogan qui annonce qu'il souhaite quitter le Barça, non pas sa retraite. Il a encore envie de jouer et visiblement...
Sa retraite internationale.
Voilà, mais il serait surtout persona non grata à Barcelone et il négocierait une résiliation de contrat pour pouvoir atterrir de nouveau à Manchester City. Annoncer la retraite internationale, ça va dans l'ordre des choses. C'est un joueur plus que trentenaire qui devait disputer sa dernière compétition. C'était l'Euro à domicile, tout comme un Toni Kroos qui annonçait sa retraite au cours. Pour ce qui est de Thierry Henry, c'est la bombe du jour en France, parce que beaucoup le voyaient succéder à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Il se met en retrait. Il faut dire qu'il a beaucoup donné de lui-même pour composer cette équipe de France. Il a eu droit à des retraits de joueurs et pourtant il a gagné la médaille d'argent. Mmh. Et pour Gonzalo Ramos, on va parler de malchance en attendant bien évidemment un prompt rétablissement pour le joueur.
Merci à Amine
Birouk. Le PSG aura besoin de...
Merci Amine Birouk. Merci à Medine Si, Élisée Ongpatine. Merci pour vos différentes contributions. C'est la fin de Sporama. Eric Manila Kiza vous souhaite une excellente soirée chez vous. À la prochaine.